Une saison en librairie, l'émission qui va à la rencontre des passeurs de livres, animée par Louise Lefaux, tous les lundis de 17h à 18h, rediffusion les mardis à 11h sur Radio Mon Pays.
Bonjour Gilles Gonnor, merci de nous accueillir dans votre librairie pour cette première de l'émission Une saison en librairie.
Bonjour.
Alors, olé beau jour, quel beau nom pour une librairie. Poétique, théâtrale, la formule semble pleine de promesses et ne nous est pas inconnue. D'où vient-elle ?
Eh ben, c'était effectivement pour les raisons et de théâtre et de poésie sur la locution « Les beaux jours ». En fait, alors la librairie, elle a été créée par ma compagne, Céline Lucet. Et quand on a travaillé sur le projet, ça, on a travaillé le projet ensemble, l'idée était de faire une librairie spécialisée théâtre, mais avec... Je dis un mais, c'est pas un mais, c'est plus encore de défendre vraiment la création théâtrale et la création de textes. Grosso modo, de ce que j'appellerais la modernité. Voilà. Donc on cherchait un nom qui représente ça, ce qui nous semblait la modernité.
C'était en quelle année ?
2005, 10, on a 11 ans. Et donc très rapidement, on a pensé à Beckett. Ça nous semblait une charnière, voilà. Et dans l'histoire du théâtre et dans l'histoire de la littérature aussi. Enfin, il y avait quelque chose autour de Beckett. Et puis, donc, dans ces cas-là, on regarde les listes de titres, on fait des choses comme ça. Et on est évidemment très vite tombé sur Les Beaux Jours, parce qu'il y avait ça, il y avait une promesse. Après, curieusement, comme les premières années, c'était Céline qui s'occupait de la librairie et qui travaillait seule, on a réalisé que toujours qu'on prend des choses comme ça, on ne peut pas faire le tour complet de tous les sens, quoi. Et en fait, la pièce sur les beaux jours, outre qu'il y a des références à Alice au Pays des Merveilles qui nous plaisait, parce que nous, tous les deux, on est fans d'Alice au Pays des Merveilles, complètement fans, la situation du personnage principal, c'était d'être enlisé, quelque part, d'attendre toujours les beaux jours, qui ne viennent pas, quelque part, de vieillir et d'être bloqué. Et à un moment donné, on s'est rendu compte aussi que cette belle promesse avait un sens plus... Mais ça, c'est la littérature, c'est jamais univoque.
Oui.
Voilà, mais c'est le choix.
Beckett, c'est quand même d'un pessimisme un peu tragique.
Ouais,
voilà.
Ouais. Mais ça, quelque part, ça nous allait bien.
Et du coup, au final, cette librairie spécialisée aux Les Beaux Jours, elle est dédiée du coup aux arts du spectacle.
Voilà.
Mais ça veut dire plein de choses, pas seulement le théâtre.
Voilà, ça veut dire le théâtre évidemment. Ça veut dire le cirque, ça veut dire les arts de la rue. Ça veut dire la danse contemporaine auquel on tient beaucoup et qu'on a toujours énormément défendu. Et de la danse contemporaine, on a glissé aussi vers la performance. De toutes les problématiques qu'il y a autour du corps et de la représentation du corps. Puis on a ouvert, on ne l'a pas fait de suite, un rayon en poésie contemporaine parce que ça nous intéressait bien déjà et parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une scène de poésie contemporaine, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans cette imagerie du poète qui écrit dans sa mansarde. Enfin, en tout cas, s'il le fait, à un moment, il y a beaucoup de gens qui viennent sur scène et qui disent, qui crient ou qui chuchotent leur texte. Et que ça devient donc, ça participe aussi des arts du spectacle. Voilà. Et le cinéma est venu après en complément de ce qu'on faisait, toujours dans une optique, je dirais moderne, ce que j'appelle moderne, mais enfin, d'une politique d'auteur, d'un langage spécifique du cinéma, pas de l'industrie du cinéma, quoi.
Donc on trouve donc des ouvrages de théâtre, mais aussi de la poésie,
ouais.
Des livres sur le cinéma, des livres sur la danse, des films aussi. Et
ouais.
Puis pour décrire un peu le lieu, on se trouve donc du coup 20 rue Sainte-Ursule, dans un espace de combien de mètres carrés là à peu près ?
60 mètres carrés.
Visuellement c'est un joyeux bazar, on peut le dire. Je vois que vous avez rajouté des tabourets devant vos étagères, parce que du coup, par manque de place peut-être, il y en a un peu partout, ça fourmille, la main est appelée à prendre les livres, l'œil s'accroche à des titres qui interpellent. Le problème de place, c'est vraiment un problème de libraire, ça. Donc petit rappel pour nos auditeurs, il y a quand même 65 à 70 000 nouveautés ou nouvelles parutions par an. Après, il y a toute la question de choix, mais voilà. Donc pour décrire un peu cet endroit, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
On a essayé d'avoir la même logique, un peu, de l'idée d'Au Les Beaux Jours, donc d'à la fois une pièce moderne et qui est quand même dans une tradition du théâtre, mais qui la change. On s'est dit que pour l'intérieur de la librairie, il fallait qu'on ait un peu cette idée-là. Donc, bon, bah, y a des bibliothèques assez classiques. Mais par exemple, les tables, on a pris des tables qui étaient des tables de famille, qu'on peut trouver dans des brocantes, hein, elles n'ont rien de... Voilà. Une fois, le petit escabeau dont on sert pour présenter des livres, bah, c'est un truc qu'on a trouvé, pareil, sur une brocante, on s'est dit, tiens, ça peut être marrant. Donc il y a un peu de bricolage, voilà. Mais on l'a fait avec une idée, je veux dire, c'est pas, parce qu'on aurait pu acheter des tables toutes clean, qui seraient plus efficaces, vu qu'il y en a une où j'ai du mal à la bouger, ou des choses comme ça. La modernité, c'est pas d'effacer tout ce qui s'est passé avant, contrairement à ce que fait le numérique, voilà. Ça c'est juste bête. Donc ça, c'est ça la modernité, c'est de prendre une mémoire, de la faire sienne et de la retransformer au point d'aujourd'hui. Et le, ah oui, alors le côté tabouret, ça s'est pas fait de suite, et c'est lié, alors c'est un truc de caractère. Céline, ma compagne, donc, était plus rigoureuse et plus rigoureuse que moi, on peut le dire, ça, c'est, voilà. Et moi, au fur et à mesure, j'ai amené ce truc-là qui est un truc qui me vient de l'expérience de libraire. C'est-à-dire, comment faire voir certains livres? En fait, on a souvent un problème, outre le problème de place, c'est comment faire voir des livres qui ne sont pas vus. Voilà. La question est là. Et c'est souvent ce qu'on appelle des livres de fond, c'est-à-dire qu'ils vont être rangés dans une bibliothèque, bien rangés, à la bonne place pour les... Mais ça veut dire, ça va être la personne qui connaît déjà l'auteur ou qui va faire la démarche, pour rien, qui va le trouver, et point, et c'est tout. Il n'y aura jamais quelqu'un d'autre qui, par hasard, va... Donc j'ai essayé d'appliquer ce truc-là. Il se trouve qu'on avait plein de petits tabourets et de chaises dont on sert pour nos rencontres. Donc à chaque fois, entre chaque rencontre, je les ramenais, je les remettais en pile, puis à un moment, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais garder celui-là. Puis au fur et à mesure, je commençais, et là, j'utilise en fait tous mes tabourets, toutes mes tables, tout... Dès que je vois un espace...
Voilà. Et c'est vrai que c'est ça qu'on voit. En fait, l'idée de mettre les livres à plat, ça permet du coup effectivement qu'ils attirent plus l'œil. Et c'est vrai que l'œil, quand on rentre dans ce lieu, l'œil est attiré par plein de couvertures et on a envie d'attraper les livres, quoi. Donc ça marche bien. Bravo.
Super.
Et du coup, le public, qui vient ici, dans cette librairie? Puisque du coup, librairie spécialisée, est-ce que ça veut dire public spécialisé?
Oui, ça veut dire ça forcément en partie, puisque le texte de théâtre est pour beaucoup acheté, lu, travaillé par des gens qui font du théâtre, voilà, metteurs en scène, comédiens, des compagnies. Donc ça, c'est vraiment le gros, mon public. Après, en cinéma, c'est moins évident, parce que je ne sais pas de manière claire. J'ai eu quelqu'un ce matin, étudiant de l'ESSAV, ou quelqu'un qui va travailler le cinéma. J'ai de plus en plus affirmé c'est-à-dire que quand on a une petite activité, qu'on est... Déjà, comme on dit, j'aime pas du tout ce terme, dans une niche, voilà, parce que les niches sont pour les chiens, comme je l'ai déjà dit, voilà, il faudrait réfléchir aux mots qu'on utilise des fois, et donc nous ne sommes pas dans des niches. Mais nous sommes dans quelque chose, effectivement, où ça va pas être, quelqu'un va pas passer comme ça et se dire, oh tiens, je vais acheter un livre de théâtre. C'est peut-être regrettable, mais enfin, ça n'arrive vraiment très rarement, en tout cas les livres. Les DVD ouvrent une petite voie que quelqu'un pourrait se dire « Ah tiens, on peut peut-être essayer ci ou ça. »
Et en même temps, moi, pour qui les arts du spectacle, par exemple, c'est pas mon rayon, pour employer un vocabulaire de ouais, libraire, ouais. Quand je rentre ici, je suis attirée par des livres de Jean-Charles Macéra, par exemple, aux éditions Verticales, qui est un auteur de romans. Bon, mais voilà, il y a quand même plein de choses quoi, qui sont dans la marge de toutes les thématiques que vous explorez.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un truc, ça m'intéresse toujours de travailler ça, de travailler la marge. Puis, pour revenir au cinéma, c'est un truc de Godard encore dans ses grandes phrases. Dans la marge, on a la place d'écrire.
Oui.
C'est une petite remarque. Voilà, donc c'est très juste. Il faut absolument avoir une marge toujours, je trouve. C'est une forme de liberté. Et puis, il y a d'autres choses, c'est que justement, ce travail à la marge, il est aussi fait par les compagnies et les metteurs en scène qui cherchent des choses depuis plusieurs années maintenant. Donc, qui évidemment vont monter des textes de théâtre. Mais ça peut être plus compliqué que ça. Ils peuvent agréger plusieurs textes. Et puis agréger des textes qui sont de théâtre ou qui ne sont pas tout à fait... D'où Macéra, par exemple. D'où, par exemple, Européana. Alors là, il y a une histoire, c'est qu'on est très proche ici du pavillon Mazars, où il y a le groupe Merci, qui est une des plus grandes compagnies, je trouve, et pas juste toulousaine, même s'il y a des difficultés à avoir la vraie reconnaissance qu'ils mériteraient.
Ils sont toujours au même endroit.
Ils sont toujours au pavillon Mazars qui est juste à côté, mais il y a un problème, le propriétaire, vieux refrain, voudrait récupérer le lieu. Voilà. Bon, mais je pense qu'ils vont pouvoir le conserver. Mais donc ils ont fait des créations ici, ils ont fait notamment la mastication des morts qui a été montée sur les berges de la Garonne en déambulation, totalement génial. Et par exemple sur un des... Alors il y a Solange Oswald donc, qui travaille les textes, qui s'occupe de la mise en scène des textes. On a souvent échangé, par exemple, ça c'est vraiment typique du travail que je peux faire et qu'on peut faire sur une librairie de théâtre, c'est-à-dire qu'on va échanger avec des gens qui ont un projet. Je me dis, voilà, je voudrais travailler autour de ça, autour de telle idée. Alors on va chercher sur des pièces, mais pas seulement. Je veux dire, des fois, ça peut être des journaux même, enfin, on peut utiliser toutes sortes de matériaux. Et puis, il se trouve, là, pour le coup d'Européana, qui est un petit livre qui a été publié de Patrick Ourennik chez Alia, c'est un texte philosophique, historique, poétique, enfin, on ne sait pas trop où il est, qui déroule le XXe siècle, c'est une petite histoire du XXe siècle, et puis qui la ressasse un peu comme une litanie, avec tout ce qu'elle a d'abominable, de totalement délirant, absurde. Et moi, j'avais adoré ce bouquin, j'ai vraiment eu un... Et puis, comme on discutait avec Solange, je lui dis, bah tiens, moi, j'ai lu ça, bon, c'est pas un texte de théâtre, mais je suis pas, lis-le, parce que ça peut nourrir par rapport à ce qu'on discute, là. Bref, ils l'ont monté, donc je suis super fier de ça. J'étais... Alors ça, c'est de plus en plus présent, quand même. Il y a beaucoup de gens qui cherchent...
Il y a des ponts. Entre les arts, il y a de plus en plus de ponts.
Il y a des ponts, et puis les questions qui sont soulevées du théâtre peuvent venir d'autres champs que le théâtre, strictement, quoi. Mm. Je crois que c'est aussi son rôle.
On va faire une petite pause musicale, ouais. Si vous voulez bien. Alors, avec un morceau que vous avez choisi, quel est-il ?
J'ai pensé à la BO de Strangers in Paradise, qui est un film que j'adore, un réalisateur que j'adore et que je suis depuis des années.
C'est quel réalisateur ?
Jim Jarmusch. Voilà. C'est une bande-son de John Lurie qui jouait dans Down by Law, qui est un de ses films les plus connus, avec Tom Waits. Voilà. Et voilà, une compo qu'il a fait pour le. Ça s'appelle Clark Car Florida.
Ok, très bien, c'est parti.
After
les auditeurs qui nous rejoignent, nous venons d'écouter Car Florida de John Lurie, musique, la bande originale du film Strangers and Paradise de Jim Jarmusch. C'était le choix musical de Gilles Gonor, libraire. Nous sommes dans sa librairie, la librairie Olé Beaujour, pour l'émission Une saison en librairie. Alors Gilles, maintenant nous allons parler de vous.
Okay. Comment devient-on libraire ?
Alors, moi j'ai eu un parcours. Bon, déjà, je suis un ancêtre, je suis né en 63. Donc. À une époque lointaine, il n'y avait pas encore toutes les formations des métiers du livre, et où la plupart des gens, souvent, devenaient libraires un peu par hasard, ou parce qu'ils aimaient les livres, je dirais. Et moi, avant d'être libraire, j'ai fait des scénarios, projets d'écriture, et puis je suis devenu libraire parce qu'il y a eu la possibilité de le faire, que je ne vivais pas des scénarios. Je me suis dit, oh, bah, puisque je suis tout le temps dans les livres, après tout, voilà. Donc ça, j'ai appris sur le tas. J'ai appris aussi avec une libraire, Cathy Martin, qui travaillait à BD Ciné, qui était libraire, qui a eu sa propre librairie, avant qu'il y ait l'informatique. Parce qu'on oublie aussi toujours ça. Ça veut dire qu'on faisait des fiches à la main, mais ça veut dire aussi qu'on avait une mémorisation très précise et des livres en stock et des livres. Tout simplement parce qu'on n'avait pas l'ordinateur pour vérifier si on avait un bouquin en stock. C'est-à-dire qu'on nous demandait quelque chose, bah, fallait le trouver le bouquin. Et j'ai gardé un peu ce fonctionnement. Enfin, il est modifié au fur et à mesure quand même avec l'ordinateur. C'est-à-dire que maintenant, des fois, je vérifie, des fois, je vérifie pas parce que je suis sûr. Mais c'est un gros travail de mémoire.
Et donc, vous avez été libraire dans d'autres librairies avant d'arriver ici, à Olé Beaujour.
Voilà, tout à fait. En fait, donc j'étais libraire sur Toulouse à BD Ciné pendant 10 ans. Donc, comme son nom l'indique, travaillait la bande dessinée et le cinéma. Donc, je m'occupais de une partie cinéma. Et aussi, justement, avec Cathy, de la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, grosso modo, fantastique, qu'on oublie toujours, et policier, roman noir, qui était plus ce qui m'intéressait. Voilà. Donc d'une partie librairie et puis d'une partie affiche de cinéma que je fais toujours. Voilà. Quand il y a eu le projet de ma compagne de créer la librairie, moi je trouvais ça formidable, je lui ai dit super, allons-y quoi.
Et donc aujourd'hui vous êtes seul aux manettes de ce lieu.
Par la librairie c'était Céline qui l'occupait tout le temps quoi, aujourd'hui c'est moi. Après un tant soit peu rentier, bah, je pense qu'on se partagerait le temps et puis on pourrait alterner, faire des choses comme ça. Mais la librairie ne peut absolument pas dégager, elle peine à dégager un salaire. Ça c'est aussi la réalité des librairies aujourd'hui, qui ne sont pas forcément aperçues de l'extérieur. Donc on a toujours fait le choix de faire vivre la librairie. Voilà. Si on était juste, c'était notre problème, mais que la librairie continue d'avancer. Donc comme elle a quand même 11 ans, on estime avoir fait déjà ce qu'on avait envie de faire.
C'est vrai que le métier de libraire, il n'est pas toujours perçu tel qu'il est. Il y a autour de ce métier toujours cette petite auréole, et puis cette petite phrase qu'on entend souvent, mais oh, vous devez lire toute la journée, ça doit être génial, quelle chance, moi aussi j'aimerais bien être libraire. Alors c'est quoi pour vous Gilles une journée de libraire ?
Dans le cadre d'une petite librairie comme ça, il y a des journées différentes. Dans des plus grosses librairies, ça peut être plus calibré. Hein. Alors déjà la particularité de travailler, pas forcément seul, mais dans une petite librairie, c'est qu'on va faire toutes les tâches. Ce qui n'est pas le cas dans les grosses librairies. Il faut bien voir aussi que dans les grosses librairies, il y a un partage des tâches qui est vraiment très strict. Il y a des gens. Il faut savoir que dans une grosse librairie, les arrivages de livres, c'est par tonne. Ça arrive par palette. Les palettes contiennent de 20 à 22 cartons de livres. Chaque carton pesant de 15 à 20 kilos. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Et puis, il y a les bouquins qui repartent, ce qu'on appelle les retours. Alors, donc, il y a des gens qui font que ça. Alors, dans une petite librairie, nous, on ne travaille pas en palette. Voilà. Par exemple, j'ai reçu une dizaine de cartons. Moi, j'ai 2 livraisons par semaine. Quand c'est une matinée de livraison, je reçois mes cartons. Comme je suis une petite librairie, je ne vais pas être livré en premier. Donc, je les ai en fin de matinée souvent. Il faut ce qu'on appelle réceptionner, c'est-à-dire qu'on ouvre les cartons, qu'on vérifie quand même que ça correspond à ce qu'on a commandé, qu'il n'y a pas de problème, etc., qu'il n'y a pas de bouquin abîmé. On pointe tout ça. Il faut les rentrer en stock, les ranger en rayon. Après, j'interviens très souvent aussi avec les bouquins que je vais rentrer, soit parce que j'ai une idée sur le moment, soit parce que quand même j'ai peut-être réfléchi avant et je vais les mettre ensemble. Un des gros travaux, et là où ça peut se voir de l'extérieur, si on est moins habitué aux librairies, regardez toujours s'il y a des liens qui se font entre les livres. Le travail du libraire, c'est de faire du lien. C'est de travailler dans des entre-deux quelque part. On est là entre l'auteur, le lecteur, on est là pour les textes de théâtre, on va être là entre le travail du metteur en scène ou des comédiens, est-ce qu'ils vont amener au public. On nourrit ça. Alors, on n'est ni des têtes pleines qui avons lu tous les livres, parce qu'on m'a déjà... Non, je n'ai pas lu... On ne lit jamais tous les livres de sa librairie. Mais ceci dit, moi, chez moi, dans ma propre bibliothèque, je n'ai pas lu tous les livres. Donc on est dans cet échange-là, on est dans un énorme travail d'écoute, moi, qui a toujours été primordial, peut-être aussi parce que moi, je suis autodidacte, donc je n'ai pas une formation universitaire, j'ai appris les choses au fur et à mesure. Et quand on apprend au fur et à mesure, il faut savoir écouter beaucoup les autres, parce que on dit autodidacte, mais il y a toujours d'autres qui vous apprennent des choses. Voilà. Alors, comme juste les notes que j'avais prises, je me suis souvenu que le premier libraire qui m'a... Je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans, et je devais faire un exposé à l'école sur la littérature fantastique. À l'époque, j'adorais complètement. Et donc, j'avais été le voir, j'avais appris... C'était un petit libraire de quartier qui faisait papeterie. Hein. Quand je dis libraire, c'était 20 mètres carrés, sa librairie. Hein. Mais lui, il se trouve, avait un très haut niveau littéraire. Il avait fait un parcours universitaire vraiment costaud. Alors, il m'avait conseillé, et en plus, c'est marrant parce qu'en y repensant, il s'appelait Breton. Bon, pas le même, mais quand même, il s'appelait Breton, ce brave homme. Il était toujours l'image qu'on pourrait avoir, qui n'existe plus. Il était avec sa pipe, en fumant la pipe, et en lisant des bouquins dans son librairie, parce que lui, il vendait des journaux, il s'en foutait complètement, il faisait que lire. Et c'est lui, je crois, qui, quand j'y repense, à partir de choses que j'aimais, il m'a indiqué d'autres auteurs. De ces auteurs, il m'a même fait passer, je ne sais pas comment il l'a fait, c'est un vrai magicien, au surréalisme, des choses comme ça. Bon, ça devait me titiller, mais n'empêche qu'il a fait le passage. Donc, grosso modo, je suis passé Poe, Lovecraft, un peu de fantasy à l'époque, mais il n'y avait pas grand-chose. Voilà, Breton, pas tellement Éluard à l'époque. Et puis, mon grand choc, ça a été Tristan Tzara et Dada. Voilà. Ça, c'est l'homme approximatif. J'ai toujours le livre que j'ai dû acheter à 15 ans. Et quand bien même, ça m'arrive de prendre des livres et je lis une page, deux pages. En fait, je regarde si ça m'accroche ou pas. Voilà. Si ça m'accroche, je l'emmène chez moi. Parce que c'est chez moi que je lis. Parce que si je lis dans ma librairie et que quelqu'un rentre et va me poser une question, je vais dire, mais vous voyez pas que je lis, là enfin, on va pas interrompre quelqu'un qui lit. Je veux dire, c'est pas comme lire le journal. On a besoin de se projeter, enfin... Donc, c'est tout simplement, généralement, pas possible. On n'est pas dans... Par définition, on doit être là, disponible, pour qu'il se passe quelque chose.
Et oui. Et donc, le travail de libraire, c'est tout ce travail administratif, ce travail de carton, ce travail de recherche. La lecture, elle se fait plutôt chez soi. Et puis, c'est vrai, vous l'avez dit, le libraire... Il favorise cette rencontre entre le lecteur et un livre. Il crée des liens entre plusieurs ouvrages et puis même, du coup, entre des compagnies de théâtre. Vous nous avez parlé de compagnies de théâtre. Voilà, donc il y a vraiment tout ça. Et vous nous avez parlé, du coup, de cette première rencontre avec un libraire et le futur de cette profession. Alors, hein, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que c'est vrai que... ça pose question dans cette société où tout s'accélère, alors que justement, vous l'avez dit aussi, le livre reste un objet qui nécessite concentration et lenteur, finalement.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une accélération purement technologique quelque part, mais qui engendre des choses dans la vie de chacun. Moi, par exemple, j'y pense plus, mais des fois j'y ai pensé, je me dis quand même, c'est étrange. Si on m'avait dit quand j'avais 15 ans que partout où j'irais, il y aurait des ordinateurs, enfin, on est réellement pour j'ai l'impression d'avoir 70 ans, c'est assez étrange. Non, mais on est réellement rentré dans un univers de ce qu'était la science-fiction. On est dans un monde totalement assisté au niveau technologique. Voilà. Alors, le fait qu'on a posé cette question par rapport aux livres et aux librairies et tout ça, en disant, bon, après tout, est-ce qu'on peut continuer parce que c'est plus le bon support, etc., a eu quand même, par rebond, quelque chose de positif, d'intéressant, il me semble, comme pour d'autres choses d'ailleurs, c'est de poser la question, tout simplement. C'est-à-dire que tout ça nous semblait évident. Bah voilà, en France, on avait plein de librairies, il y avait plein d'éditeurs qui publiaient, et comme si tout ça, c'était normal, que non, c'est le résultat de... D'abord, l'édition, l'imprimerie, la librairie, c'est lié dans l'histoire du livre. Les premières librairies ont été soit des imprimeurs, soit des éditeurs, soit les trois. C'est totalement lié. Et comme pour d'autres choses, là-dessus, le numérique est quelque chose qui... c'est pas un discours contre le numérique, je précise juste, c'est pas la question. Mais ça dissocie les choses. Le livre, c'est effectivement un temps plus long, mais qui vient d'une histoire de diffusion de pensée, mais pas que de diffusion de pensée, c'est-à-dire que cette forme particulière, justement, livre, est justement... On peut faire des brochures, on peut faire des journaux, on peut faire des plaquettes, il y a plein d'autres définitions. Le livre, ça a une définition précise. Et sa définition, c'est que c'est un objet que l'on va garder. C'est essentiel, voilà. Et la discussion, du coup, qui s'est soulevée à travers le numérique, etc., pose un point intéressant, c'est à savoir, est-ce qu'on n'est pas arrivé aussi, par cause d'industrialisation, à un ensemble de livres qui, en fait, ne sont pas faits pour être gardés. Donc je pense que sur le long terme, il y a une prise de conscience aussi que l'objet livre, qu'on y tenait, moi j'ai l'impression, j'ai beaucoup de retours à ça, et qu'on tenait aussi l'idée qu'il y a dans la librairie, qui n'est pas juste un stock, c'est-à-dire un entrepôt où il y aurait des livres dedans, et puis on va je vais chercher des livres. C'est ça la différence avec une librairie. C'est des livres qui sont gardés pour des raisons précises. Si je fais un rayon de théâtre... c'est pas forcément que je vais vendre plein de Beckett. C'est que si on travaille le théâtre, je vais avoir tout Beckett, comme d'autres auteurs. Hein. Et il faut un lieu où les livres soient visibles, qu'ils soient consultables, et on puisse avoir des échanges. Parce que la librairie, ce n'est pas qu'un lieu de vente. Toujours évident aujourd'hui pour des jeunes. Je leur dis, mais vous pouvez passer, si à un moment vous avez besoin de lire, par exemple, des étudiants de conservatoire de théâtre, ils vont avoir besoin, ils vont acheter des bouquins, mais dans les essais sur le théâtre, ils vont peut-être pas pouvoir tous payer. Ben voilà, ils peuvent venir dans une librairie et consulter. En tout cas, ici, ils peuvent le faire. Et pour moi, c'est aussi le rôle d'une librairie. Alors évidemment, s'ils veulent l'emmener chez eux, il faut aller où, en bibliothèque, ou il faut acheter le bouquin. Mais moi, j'ai passé des temps mais immenses dans des librairies avant d'être libraire. Et ben qu'on était... Parce qu'on est le seul pays au monde à avoir ce réseau de librairies, on ne se rend pas compte. Aux États-Unis, il n'y en a plus. À part à New York et deux à San Francisco. Et après, c'est fini, c'est des chaînes. Et les livres ne sont même pas édités s'ils ne passent pas dans les chaînes. Et c'est ce qui nous pend au nez. Parce que quand on confie au pouvoir économique de décider, on le voit par ailleurs ce qu'il fait. C'est très simple, il fait la rentabilité au maximum.
Et c'est vrai que cette richesse de la librairie indépendante en France, où il y a un maillage sur tout le territoire français, bon, il y a aussi la protection de la loi Lang, mais toutes ces petites librairies indépendantes, on dit petites, mais elles ne sont pas toutes petites, mais toutes ces librairies indépendantes, où à chaque fois le libraire fait les choix de livres, permettent de pouvoir montrer un nombre et une pluralité de livres incroyables. Et s'il n'y avait pas toutes ces librairies-là, du coup, effectivement, si c'était les chaînes, je pense que du coup, le livre serait peut-être plus industrialisé, il n'y aurait que certains titres et pas tous, quoi.
Ah oui, 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 et c'est le réseau qui permet cette existence-là, qui permet l'édition. Les choses sont liées. Et donc aussi de la création de demain. S'il n'y a plus ce rôle de passeur et que c'est purement des chaînes qui vendent, que ce soit sur le net ou en vrai, il y a un moment ça ne change plus tellement la question, qui vendent ce que le circuit commercial a décidé de vendre, et point. Malgré ce réseau, il y a des livres qu'on ne voit ou rarement ou à peu près jamais, parce que c'est des petits éditeurs, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entrer dans le circuit de distribution, que beaucoup de librairies actuellement ne veulent plus travailler, ce qu'on appelle en direct, c'est-à-dire directement avec l'éditeur, parce qu'ils préfèrent passer par un réseau de distribution qu'ils connaissent bien, sur lequel ils peuvent, enfin, faudrait rentrer dans une discussion technique. Ça existe aujourd'hui, et l'édition est quand même très riche. Il y a eu beaucoup de créations ces dernières années, parce qu'il y a un réseau derrière qui le défend et qui travaille dessus. Ça travaille à long terme.
Alors que, comme on le disait, du coup, le livre, la lecture, c'est la concentration et la lenteur, l'éloge de la lenteur. Bon, et du coup, évidemment, quand on parle futur des librairies, on évoque forcément le numérique, comme vous l'avez fait, mais après, il y a tout ce qui est Internet. Alors voilà, le lieu librairie est important, puisque du coup... il y a des discussions autour du livre, on doit discuter autour du livre, il y a ce passage de main à main d'un livre, ça se passe de main à main. Et il y a aussi du coup Internet, et du coup j'avais envie de parler de votre blog que j'ai un petit peu épluché avant de venir. Donc ce blog, c'est vous pouvez le trouver sur www.olesbeauxjours.com, et j'ai trouvé un article qui m'a beaucoup plu, un article publié le 16 avril 2016, intitulé « Le joli mois de mai ». Alors je vous cite « À partir du joli mois de mai et suite à une intense négociation multilatérale du libraire avec lui-même, la librairie sera ouverte le samedi de 10h à 16h. Conséquemment, Elle sera fermée le reste du samedi après-midi, ce qui permettra éventuellement aux libraires, volontiers romantiques, d'aller cueillir des pâquerettes et autres fleurs des champs. Allez, soyons chics, offrons un beau, gros bouquet à notre cher patronat, à nos chers gouvernants et à nos chères banques et institutions si soucieuses de nos petites vies. Vive le printemps. C'est un joli portrait de vous, je trouve.
Merci. C'était, oui, j'ai eu le... je crois que c'est peut-être un portrait, oui, j'y avais pas pensé. C'est venu comme ça. Le problème, c'est que en travaillant seul, je travaille du coup vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est bien connu qu'on est, on s'exploite le mieux soi-même, quoi. Enfin, voilà. Donc effectivement, à un moment donné, ça a créé un conflit interne. Il y a le côté syndical qui est remonté contre moi-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu te fais là? C'est pas possible. Voilà. Alors moi, j'avais envie de réaffirmer aussi que si je faisais ça, si je me battais depuis 10 ans pour que la librairie existait, c'était pas pour faire le meilleur chiffre du mois le samedi. C'est pas la question. C'était pas pour relancer la consommation, la croissance et que je sais, qui ne nous servira jamais de toute façon. C'était pour défendre autre chose et peut-être quelque chose qui a à voir avec le printemps, quelque chose à voir avec ça, avec la joie de vivre, avec des choses comme ça.
Oh les beaux jours.
Oh les beaux jours, c'est
voilà.
Ça. Oh les beaux jours.
Et si on écoutait un deuxième Allez. Morceau choisi par vous-même?
Alors, c'était plus pratique d'aller voir du côté du cinéma. Et alors là, je trouvais un autre morceau que j'aime beaucoup. C'est 8,5, la BO de 8,5 de Fellini, c'est une musique de Nino Rota, voilà, que j'adore.
Allons-y. Toujours à la librairie Olé Beaujour, au numéro 20 de la rue Sainte-Ursule, en plein cœur de Toulouse, et en compagnie du maître des lieux, Gilles Gonnord, nous venons d'écouter une chanson de Nino Rota, qui fait partie de la bande originale de Otto e Mezzo, du grand Fellini. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cœur de votre métier, le choix des livres et le conseil aux lecteurs. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite balade dans la librairie. Et puis qu'on parle livre.
Une façade poésie. Là, il y a Patti Smith. Alors, moi, je suis très content parce que, par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la musique et beaucoup au rock, ou à ce qu'on appelle la pop, ou je n'irai pas plus loin que ça parce que je suis resté à ces dénominations-là. Et Patti Smith, c'est quelqu'un d'immense par rapport à ça, et qui est aussi poète. Mais je veux dire, dans ce qu'elle fait musicalement, c'est de la poésie. Et puis elle a eu une espèce de reconnaissance parce qu'elle a écrit sa vie. Donc je me suis dit, oh, je pouvais me permettre de la voir puisque j'avais les prétextes et que j'aimais bien.
Et donc là, le livre, c'est...
Bah, ils ont réédité la bio avec Mappel Torp, qui était son ami à l'époque et qui est un grand photographe, Just Kids. Et puis son dernier livre, Mr. Trend, que j'ai pas encore lu. Et puis derrière... Alors par exemple, c'est drôle, parce que ça, c'est un poète, Lucien Suel, qui a fait un petit texte sur Patti Smith.
Ah oui, parce que du coup, voilà, pour les auditeurs, Patti Smith, du coup, de Lucien Suel, c'est écrit P-A-T-I-S-M-I-T.
Voilà. Donc il y a le texte aussi en français, en anglais, et écrit en picard. Voilà, il y a la traduction en français et en anglais.
Donc là, on est vraiment sur une table, comme vous nous disiez tout à l'heure, voilà, où le libraire fait des liens. Voilà. Donc Just Kid, qui est paru, que vous pouvez trouver en folio chez Gallimard.
Là, j'ai un recueil, ça me permet de parler et de l'éditeur et de l'auteur, Anne-Claire Hello, qui signe AC Hello. J'ai découvert via un éditeur qui s'appelle Ficile, qui édite de la poésie. C'est une vraie rencontre avec qui je travaille, comme on dit, en direct, c'est-à-dire que je passe pas par un distributeur, je travaille avec lui, avec l'éditeur en direct. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et puis j'ai essayé des textes. Puis il y a un texte qui s'appelle Paradis remis à neuf, à Anne-Claire Hello, j'ai complètement flashé dessus. Elle a écrit un bouquin plus récent qui est super chez Aldante, Naissance de la gueule. Et je suis très content parce que là, c'est une partie du rôle de libraire que je défends et qui me fait plaisir. J'ai découvert ce texte, je l'ai lu à une lecture qu'on a faisait à la librairie. Et puis du coup, ça a rencontré les oreilles des programmateurs justement du hangar qui font les bruits sonnantes, et ils ont programmé Anne-Claire Hello. Elle est venue aussi très gentiment faire une perf pour les 10 ans de la librairie. Moi, je suis hyper admiratif, elle me touche beaucoup. La dernière fois, elle est juste venue sur scène, elle a dit un texte, voilà. Et tout le monde était bouleversé. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Pour vous donner un... Voilà. Christophe Tarkos, c'est un des fondateurs de la poésie contemporaine.
Alors là, il est édité chez POL.
Hein. Il est édité maintenant chez POL. Aldante avait fait une grande partie du boulot avant, mais ça n'a pas été réédité. Donc du coup, POL l'a réédité, ça n'enlève rien. Vous pouvez facilement trouver des petites vidéos, autant utiliser aussi les outils numériques quand c'est utile. Il y a plein d'enregistrements des performances de Christophe Tarkos. Essayez ça, vous verrez, parce que faut vraiment l'entendre. Alors, c'est une des caractéristiques de cette poésie qu'on dit sonore ou performative, mais c'est juste de la poésie. En fait, la poésie a toujours été dite ou chantée, comme le théâtre avait une partie chantée, voilà, dans le théâtre antique. Très importante, c'est lié à ça. Et c'est des textes qui sonnent, quoi, voilà. Christophe Tarkos, donc lui, il est toujours là parce que c'est génial et parce que c'est une des fondations de ce qui se fait actuellement.
C'est ce qu'on appelle les livres du fond. Voilà. Les livres qui ne sont pas forcément dans l'actualité littéraire, mais que le libraire va décider de garder absolument entre ses murs.
Gerasim Luka, qui est un autre fondateur de la poésie contemporaine, voilà, là il y a des Bretons parce que ça c'est aussi affectif et je trouve que quand même, mais en fait il faut lire quand même les poésies de Breton parce que c'est quand même pas mal et je crois qu'il a apporté quelque chose. En dessous il y a une série de bouquins de Patrick Bouvet, ça fait un moment que je suis, lui c'est justement un poète qui aussi qui fait des perfs, il y a un enregistrement sur DVD. Et ça elle a fait avoir avec le cut-up, c'est-à-dire de prendre des bouts, ce que faisait Burroughs, des bouts de phrases, les recouper, les remettre différemment. Il fait ça avec de l'actualité. Il a travaillé ça non seulement sur En Septembre, mais sur plein de séquences comme ça, en découpant des phrases et en les faisant sonner, les répéter, tourner, parce qu'il travaille de la musique aussi.
Puis on peut peut-être passer au théâtre.
Souvent, on voit beaucoup de tables de nouveautés. Bon, moi, ça se réduit, parce qu'on là-dessus, on a la chance, en librairie spécialisée, c'est quand même une chance d'avoir beaucoup moins de flots de nouveautés. Donc, du coup, on peut faire le choix. Y en a qui restent longtemps sur table. Du coup, mais voilà. Et puis, je peux croiser, remettre. J'ai une nouveauté, je vais remettre les ouvrages précédents ou refaire des choses comme ça.
Alors là, sur la table théâtre, on voit les éditions de l'Arche, évidemment, les éditions théâtrales, les solitaires intempestifs.
Les solitaires intempestifs. Moi, je mets très en valeur les éditions Espace 34. Parce que j'aime beaucoup leur travail et parce qu'aussi on s'est rencontré avec Sabine Chevalier qui est l'éditrice, qu'on a fait en partenariat aussi avec le Conservatoire de Toulouse de théâtre, et c'est vraiment des textes de création. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, ça veut dire que c'est publié même si ce n'est pas encore monté, parce que la plupart des textes de théâtre ne sont publiés que lorsqu'ils sont montés. Et là, il y a un travail de prise de risque sur du texte contemporain.
Où il n'y a pas forcément eu le spectacle.
Pas forcément eu le spectacle qui va avec. Voilà, c'est un superbe travail que je mets.
Qu'est-ce que c'est en fait? Du coup, c'est Les Solitaires Intempestifs aussi, puis c'est un beau livre là.
Ouais, alors c'est un livre de photos sur le travail des Castellucci. C'est un travail, alors c'est très particulier. Moi, j'avais vu en photo et puis j'avais pas vu une pièce complète avant de le voir là au TNT. Il y a des gens qui ont détesté, je le comprends très bien. Alors, et je dois avouer que c'est étrange parce que la première partie, j'étais pas. Je me suis dit, s'ils font ça pendant 2 heures, c'est un peu rude quand même. Et la deuxième partie, j'ai juste trouvé ça génial. Du coup, ça a tout renversé. Et je trouve qu'il crée des images. Ça, c'est entre de le... Alors, il y a des gens qui disent que ce n'est pas du théâtre. Bah, c'est sur une scène. Ils font un dispositif sur une scène. Il y a quand même un texte. Ils sont là, sur ce qu'ils avaient montré, c'est l'Orestie, du moins une partie, une sorte de concentré de l'Orestie, où d'ailleurs, ils font apparaître un bout d'Alice de Lewis Carroll. Il y a des lapins, tout ça. Enfin, donc, il y a des... Et après, ils travaillent beaucoup sur des images. Voilà, la couverture, c'est un masque mortuaire un peu. Ils travaillent sur des choses morbides, ils travaillent sur le rapport au corps. Des choses assez dures. C'est leur axe. Mais alors, ils font des images extraordinaires, qui sont plus que des images. C'est réellement pictural.
Bon, après, il y a toutes les étagères. Donc
voilà,
là, on
ça,
voit
c'est,
bien sûr
c'est le fond.
Antonin Artaud.
Voilà. Le fond, on essaie.
Ceux qu'on connaît.
Voilà, le Artaud, le Peter Brook.
Bon, j'imagine qu'il y a Beckett, évidemment. Oui,
ouais,
on le
voit.
Voilà,
ça c'est les essais. Histoire du théâtre, scénographie. Malheureusement, il n'y a pas énormément de livres, mais qui sont précieux pour les gens qui travaillent. Ça, c'est un super livre. Yannis Kokos, le scénographe et le héron. Yannis Kokos est scénographe très reconnu. Hein. Il a fait mais lui, il n'est pas passé par des écoles. C'est surtout un dessinateur. Il explique son rapport au dessin et comment on visualise un espace, parce que c'est ça le travail des scénographes.
Ça, c'est aux éditions Actes Sud.
Aux éditions Actes Sud, ouais. Et ce qui est super, c'est que du coup, c'est très vivant. Voilà, c'est comme quand il y a des entretiens avec Chirou, les écrits de Cantor qui sont ressortis au Solitaire Intempestif. Enfin, tout ça, c'est des choses qui. Je trouve qui nourrissent. Et puis qui nourrissent sa création.
Alors là, je vois un livre que j'adore. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Alors là, on le classe comment, ce livre-là, dans cette librairie?
Il n'est pas tout à fait classable. C'est un des trucs qui... Alors à un moment donné, il y a deux choses qui se sont croisées. C'est qu'on avait une demande de textes monologues. Là, c'est purement des comédiens, des compagnies qui, à un moment donné, ont besoin de travailler cette forme-là. Donc on a réuni des textes qui étaient des monologues. Puis à partir de là, on s'est dit, bon, mais un monologue, en même temps... Enfin, ça a été très important aussi dans la partie romanesque. Donc, des fois, on a pu prendre... voilà, j'ai pris Les Vagues de Woolf, qui est censé être un roman. C'est pas vraiment un roman. Hein. C'est des voix intérieures, c'est très étrange. Et donc, des choses qui avaient à voir comme ça, avec des voix intérieures, ou ce qui est un peu le texte de Dagerman. C'est entre un poème, une voix intérieure, mais ça peut être dit. Voilà, ça peut se prêter à ça. Comme le texte de Coltès, qui est magnifique, la nuit juste avant les forêts, qui est vraiment un texte de théâtre. Donc il y a une circulation, bonjour, qui se fait. Et puis, alors juste en dessous, sur ces fameux petits tabourets, ça c'est un exemple des choses que je peux faire, ça devrait être en poésie, en même temps. Là c'est le texte édité par le Grand Os, qui sont des super éditeurs de poésie contemporaine et de récits, qui sont toulousains, avec qui on est en relation. Ils ont réédité un auteur que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Paniro, qui apparemment est assez connu. Et c'est des textes qui sont des récits, mais qui sont de la poésie. C'est-à-dire que l'intention est petite, grosso modo. Il y a aussi tout un courant dans la poésie comme ça, qui soulève les questions aussi de catégorie. C'est une des choses qui m'intéresse à travailler. Alors, donc, cet éditeur-là, Le Grand Os, il était pas Nero, mais ils se connaissent aussi, et ils ont fait aussi une partie de travail avec les éditions Ficile, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je les ai montrées là. Il y a eu des adaptations, il y en a une là, de Roberto Bolaño, mais je l'ai mis à un autre endroit, à un moment, je l'avais mis là, que par ailleurs, j'adore, moi, j'ai tout lu de Bolaño, qui est une œuvre dite romanesque, entre guillemets, mais à savoir que lui-même s'est toujours considéré comme un poète qui, à un moment, a fait des romans. Alors, son grand œuvre de 1666 a été adapté au théâtre là pour Avignon, et puis ça tournera après. Donc, à partir de là, j'ai regroupé des choses qui posaient les questions de l'exil, du théâtre en Amérique latine, et voilà, mais j'avais mis un ou deux films. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le numéro d'alternative théâtrale qui est consacré au théâtre au Chili. Le topor, par contre, je ne sais plus ce que j'ai fait. À mon avis, je me suis trompé. Il faudra que je le range, celui-là.
Là, on est en train de vous décrire un petit peu comment sont placés les livres
là,
sur les tabourets.
Un travail qu'on avait fait sur les écritures sur la Grèce contemporaine, les Balkans, autour de tout ça. Enfin, c'était sur les Balkans, qui s'était fait en partenariat avec le Ring. Voilà, ça, c'est aussi important qu'on travaille des textes, mais qu'on travaille aussi avec. J'ai parlé du conservatoire, du groupe Merci, on reparlera du hangar des Bruits Sonnantes, le Ring, qui est un lieu de création aussi. On travaille aussi avec le Grand Rond. C'est d'avoir ce type de lien, et des fois, ça fait bouger tout le monde, je veux dire. Moi, quand on m'amène, par exemple, sur où on est, la littérature des Balkans, niveau création, théâtre, etc., ben, ça me fait chercher dans les... Alors, je dis pas que je lis tout ce qui se passe dans les Balkans, c'est pas la question, mais du coup, je creuse une question. Déjà en termes de bibliographie. Et puis après, je vois ce que je peux avancer. Donc,
faire des liens entre les lieux, entre les ouvrages.
Ouais, ouais. Ouais. Et puis comme ça, c'est aussi un enrichissement mutuel, je veux dire. Parce que c'est la curiosité mutuelle qui font qu'on continue à apprendre. Et puis là, on est devant le fond, donc par auteur, d'écrit, de théâtre, de texte. Voilà.
Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même aussi des DVD, des affiches de films. Aussi ouais. Dans la librairie.
Ouais. Bah oui, c'est quelque chose que j'ai sur le cinéma que j'ai travaillé auparavant, que j'ai voulu poursuivre, mais en faisant un choix assez fort sur les affiches de cinéma, c'est-à-dire que je travaille les petits, ce qui correspond aux petits distributeurs, en fait, qui correspond grosso modo au réseau ARS. Voilà. Je travaille ça, et puis du coup, les films aussi. Alors ça a été très long en dehors des livres de cinéma à mettre en place parce que le réseau DVD, dans un premier temps, s'est appuyé à peu près exclusivement sur les grosses structures de distribution. Mais depuis que, par exemple, Virgin est tombé, ils ont un peu revu ça. Donc on a pu commencer en librairie à travailler avec des distributeurs de DVD qui nous faisaient un peu des conditions sans qu'on achète les fameuses palettes, justement. C'est véridique, les palettes. Hein.
Oui, oui.
Voilà. Et donc au fur et à mesure, ça m'a pris quelques années, j'ai pu mettre en place un fonds en partant de la même idée, c'est-à-dire que un des trucs que je trouvais, c'est que le DVD, on le travaillait purement comme un produit, et que le cinéma était comme la littérature ou d'autres arts, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être momentanées, puis il y a un temps qui se fait, qui fait qu'il y a des auteurs qui restent, on parlait de Fellini tout à l'heure, ou de Jarmusch, qui est plus jeune, mais qui, bon, voilà, ça y est, il a fait son line-up en cours. Alors j'ai essayé de travailler ça, via aussi le support DVD.
Et là, on voit que dans le rayon DVD, y a des livres qui se mêlent au DVD. Voilà, là aussi, on fait des liens, on fait des ponts.
Ouais, ça me paraît toujours... parce que, voilà, moi j'ai un rapport à la classification. Il faut des classifications, mais il faut savoir s'en méfier aussi. Parce que on parlait de poésie, de théâtre, des fois, il y a des gens où vous les mettez, ou tel livre de tel auteur. Dans quelle case vous allez mettre? Alors, tout le monde aime bien les cases parce que c'est plus pratique en termes de vente.
Puis c'est rassurant.
Et c'est rassurant. Mais souvent, justement, les gens, je trouve les créateurs les plus intéressants, bah, ils ne sont pas toujours évidents. On ne sait pas très bien quelle case cocher. Et ça, il me semble que c'est à travailler, justement. Donc, en faisant des allers-retours... voilà, parce que par exemple, il y a eu des films de Céline qui avait fait le dernier, dont on, c'est Winter Sleep, dont on a un peu parlé quand même. Donc moi j'aime beaucoup son cinéma. Il y a Sharounas Bartas, on ne peut pas dire qu'il soit ultra connu, mais qui fait un cinéma superbe. Et Bélatar, avec le super bouquin de Corinne Maury, voilà, que je salue, qui a fait aussi La Traîne de la pluie. Qui a magnifique travail avec un superbe éditeur qui s'appelle Yelonan, qui est un des rares éditeurs en cinéma qui ait fait de la création, prennent des risques et savent concevoir des livres qui ont un fonctionnement de lien entre le texte et l'image, qui ne soient pas seulement des livres de cadeaux, quoi. Et puis The Lobster, c'est le dernier... Je ne vais pas assez au cinéma, malheureusement, mais là, c'est un des derniers films que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment incroyable, et que j'ai pu avoir en DVD pour le présenter. Il y a d'autres choses, hein, dont Peter Watkins, que je travaille depuis longtemps, Les Petites Marguerites, c'est un chef-d'œuvre qu'on doit en France au magnifique travail de Malavida, qui est un petit éditeur qui a édité plein de films, à l'époque tchécoslovaque et aujourd'hui tchèque et slovaque, voilà, dont Ces Petites Marguerites. Depuis le temps que j'en entendais parler, c'est une merveille. Voilà, des Jarmusch dont on parlait tout à l'heure.
Bon, et alors, si vous deviez me faire un conseil de libraire, alors, sachant que, bon, ben, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément mon rayon, tout ça, mais avec quel livre je repars ?
Alors, il y a plusieurs pistes. Alors, comme j'ai un peu pensé aussi à cette question de pas rester juste dans le domaine, j'ai pas beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, des romans, mais j'ai quand même... il se trouve qu'il y a, par exemple... Ce monsieur Celestini, un auteur italien contemporain, alors qui est comédien, qui est acteur, il vient du théâtre et qui a écrit des pièces de théâtre purement. Mais après, il a fait un drôle de roman qui s'appelle La Brebis Galeuse, qu'il a adapté lui-même au cinéma, qui s'appelle La Pecora Nera, un titre original, qui a beaucoup à voir avec le théâtre parce que on est à l'intérieur de la tête d'un personnage et c'est des doublements, etc. Et il a fait un bouquin que moi j'adore complètement qui s'appelle Lutte des classes, qui est édité par Notabilia, et qui sont en fait quatre récits, donc ça pourrait être quatre monologues, il y a quelque chose de théâtral absolument là-dedans. On peut dire que c'est un roman, mais c'est pas tout à fait vrai. Ce qui lie ces quatre monologues, c'est qu'ils sont tous les quatre dans la banlieue de Rome, c'est le Lupin prolétariat actuel. Ils ont tous les quatre des vies plus que difficiles. C'est un peu le affreux sale et méchant d'aujourd'hui, pour faire court. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est un bouquin que j'ai lu quasiment d'une traite, c'est que c'est drôle, c'est méchant, c'est tout ce qu'on veut. Mais surtout, justement, dans une des problématiques où on est aujourd'hui, et je trouve pas seulement sur le domaine de création littéraire, mais c'est une des questions, c'est comment parler d'aujourd'hui sans être désespéré, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et j'ose dire, on constate tout ça, et donc du coup, ils ne font plus rien, parce qu'on attend la mort, quoi. Et ben lui, il nous dit justement qu'il sait très bien de quoi on parle, qu'il est en Italie, un pays où c'est le plus dur actuellement, avec des personnages déglingués, qu'on dit vie, c'est plus pourri, c'est abominable. Et qui sont traversés d'une pulsion de vie délirante, qui touche à leur. C'est-à-dire qu'ils réinventent la réalité en partie, on s'en aperçoit au fur et à mesure du récit, et qu'en fait on sort de cette lecture complètement revigorée, traversée de vie, de pulsion. Et son titre, Lutte des classes, est en fait très pertinent parce que je disais que ça. Volontairement, qu'il parlait du lumpen prolétariat, c'est-à-dire, c'est très simple comme concept, c'est être prolétaire sans en avoir conscience. Et c'est le cas de ces personnages-là. Et c'est comment, en traversant l'envie, à un moment donné, ils commencent à prendre conscience, c'est-à-dire à prendre conscience qu'on peut-être on peut choisir quelque chose dans sa vie. Ce qui n'est pas une idée évidente. Et je crois qu'à la fois, ça dit au point où on en est, de destruction, et à la fois de tout ce qui peut être reconstruit. Et reconstruit avec la vie et avec la vie de tous.
Oui.
Y compris ceux qu'on, justement les invisibles. Ceux qui ont des boulots pourris, ceux à qui on ne demande jamais qu'est-ce qu'ils en pensent, et encore moins de quoi ils pensent, de ce qu'est la culture et tout ça. Mais peut-être ce n'est qu'avec tout le monde qu'on peut reconstruire quelque chose. Voilà, c'est un des trucs que dit Celestini.
Eh ben, ok. Je pense que j'ai fait mon choix. Super. Comme quoi, hein, le conseil des libraires, hein, c'est important. Hein. Donc Gilles, on va se quitter sur votre dernier choix musical. Alors
A Day in the Life. Alors j'ai tendance à dire John Lennon, mais c'est les Beatles. Mais c'est une chanson de John Lennon. Je suis né en 63, donc j'ai écouté ça. Je pense que mon frère a acheté quand c'est sorti. Je sais plus, c'est 67. Voilà, donc j'avais 5 ans, je pense. Première fois que j'ai écouté ce morceau, je l'écoute depuis tout le temps et je pense réellement que c'est un des plus grands morceaux de musique qui a été créé au XXe siècle. Voilà. Et puis John Lennon, je sais pas quoi dire à propos de John Lennon. Quelqu'un d'immense.
Je vous remercie beaucoup, Gilles Gonnard.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
I wish I could sit here forever and watch the world go by. I wish I was God, the all-seeing eye. Often I stand at my window and just like a fly on the wall, nobody sees me, but I survey all. To see their pain is to feel their pain. Their joy is mine. Is mine. My life is a broken mirror, and the fragments are scattered around. I am always crying, but nobody hears the sound. Often I think of the future. Will I be what I want to be? When time reaches fruition, I will know my destiny. To see their pain is to feel their pain. Their joy is mine in time.
Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.
La mort à la sueur de son front, courant dresser ses forts comme des pigeons et des moutons.
Ah bon?
Pratiquer un sport pour devenir un champion. Le culte du corps et de la compétition.
Non merci, ça ira. Très peu pour moi. Je préfère rester chez moi en pyjama. Mon temps m'appartient. J'en fais ce que je veux. Si je veux en faire rien, c'est mon problème, je peux. Une sortie au zoo ou au supermarché, avec la belle auto qu'on a bien nettoyée. Non merci, ça ira.